Bonjour et bienvenue dans Venue d'Orient, le podcast des voix de la diaspora maghrébine et moyenne-orientale avec Nawel El Amouchi. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Rudi Osman, le fondateur de l'Union des étudiants exilés. Rudi se définit comme un activiste des droits de l'homme. Il est kurde, il vient de Syrie et il a déjà vécu plusieurs vies. Étudiant en droit à Damas au début du printemps arabe, il devient l'un des meneurs de la révolte étudiante en organisant des manifestations. Il se fait arrêter, torturer et il est contraint à l'exil. Il trouve refuge en France. Là, il découvre une autre forme de violence qui est plus silencieuse mais qui est tout aussi brutale. C'est le déclassement. Pourtant, il parvient à se reconstruire. Aujourd'hui, Paris est devenu sa maison et il consacre son temps à tendre la main à celles et ceux qui, comme lui, ont dû tout recommencer loin de chez eux. Bonjour Rudi, merci de nous faire le plaisir donc d'être là aujourd'hui pour cet entretien, pour Venue d'Orient. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous raconter votre parcours depuis la Syrie jusqu'à votre installation en France et nous expliquer en quoi cette trajectoire elle a aussi façonné votre engagement en faveur des personnes migrantes?
Bonjour Nawel, je suis Rudi Osman, je suis né d'une famille kurde et syrienne. Je suis né à Damas en 2011. J'étais étudiant en droit, j'étais journaliste et j'étais militant en droit des hommes. Quand 2011 est arrivé, c'était le printemps arabe qui est éclaté, qui a commencé en Syrie. Moi, je ne voulais pas être un simple spectateur. Donc, c'est là qu'on a commencé à s'organiser autant qu'étudiant, à organiser des manifestations étudiantes dans l'université, dans le campus, et aller plus loin petit à petit. Donc, je me trouvais en 2011 journaliste à faire plein de vidéos, plein de films. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrêté plusieurs fois. J'étais torturé, j'étais menacé de mort. Ce qui m'a forcé aussi à quitter la Syrie à ce temps-là. Pour dire ce qui m'a façonné d'être engagé aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous, on a vécu comme injustice sociale en Syrie. Les valeurs et principes que la famille, les parents nous ont donnés, c'est les vécus personnels et c'est les histoires aussi personnelles de la galère, de la solitude et de l'injustice sociale, économique, du déclassement social qui m'a fait aujourd'hui être engagé.
Et cet exil, comment vous l'avez vécu?
L'exil n'est pas une trajectoire facile. Quand on dit qu'en fait on est arrivé en France, on a franchi des frontières, pour moi c'était ça l'exil, que c'est là que je suis un exilé. Arrivant en France, je me suis dit oui, l'exil est fini en fait. Sauf que ce qui était arrivé, c'était une autre type de violence qui était arrivée, c'était cette violence administrative, cette violence de déclassement social, économique, qui a fait en fait un exil qui n'était pas facile, qui était heurté par un mur de procédures et process administratifs sans fin. Donc, à dormir dans les rues, trouver des douches publiques, d'essayer de trouver un chemin, de retrouver un toit, de s'installer, de dormir sans avoir faim et tout ça. L'exil a commencé à cette époque-là, et sauf que pour moi, c'était non, en fait, on arrive en France, c'est la fin.
Oui, parce qu'on le rappelle, en Syrie, vous étiez journaliste. Hein.
C'est ça.
Et donc, le déclassement que vous avez subi, en fait, c'est de passer d'une vie qui était à peu près normale, ou en tout cas, vous aviez le métier que vous vouliez faire, à justement cette vie en France, presque devenue sans-abri, quoi.
En fait, en Syrie, si je peux dire... Je viens d'une famille qui était une famille classement social assez aisée, prestigieuse. C'était pas une situation que je me suis trouvé ici en France. Effectivement, quand on arrive ici en France, c'était l'inverse que ce que j'ai imaginé. C'était
un déclassement.
Un déclassement, oui. En fait, c'était un déclassement de tous les niveaux et toutes les échelles. C'est-à-dire un déclassement social. Donc, ça change complètement l'environnement. Change complètement l'entourage, un déclassement économique, ça change Complètement, avec 10 euros à cette époque, on pouvait acheter plein de choses. Avec un déclassement académique, oui, j'étais l'équivalent de M2 en droit. J'étais journaliste, j'étais quelqu'un qui était engagé dans la société civile syrienne. Oui, j'avais ma vie, j'étais ma personnalité, j'avais tout. Et donc, le fait de perdre tout ça aussi, c'est un autre type de violence. Traiter une personne qui arrivait à un bagage culturel, un bagage académique, et de le mettre vraiment à côté et de lui dire, non, tu dois, tout ça sert à rien. Il faut aller travailler comme un livreur, il faut aller travailler comme un vigile.
Et lorsque vous repensez aujourd'hui à la série, c'est quoi qui vous revient en premier? Est-ce que c'est des images, c'est des souvenirs précis, c'est la douleur? Ou au contraire, lorsque vous pensez à la série, bah, c'est un peu comme une force intérieure?
Quand je pense à la Syrie, il y a l'odeur de jasmin de Damas qui vient tout le temps. Il y a les cris de la liberté qui étaient formidables pendant les manifestations incroyables en Syrie. Mais toutes ces pensées-là perturbent avec tout ce qu'on a subi comme perte aussi, c'est-à-dire les pertes des amis, la destruction massive de pays, les actualités aujourd'hui syrienne, avec tout ce qui se passe, la répression, les massacres contre les Kurdes, les Alaouites, les Druzes, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça me ramène à une colère. La Syrie aujourd'hui, pour moi, tout ce qui m'a donné, tout ce qui était passé, c'est une force, c'est un moteur qui me pousse parce que, avec tout ce qui s'est passé en Syrie, la prison, la perte des amis, la solitude, avec tout ce qui s'est passé en France, avec la recherche quotidienne de trouver un toit, de trouver à quoi manger, ça m'a donné un mélange de force, un mélange de personnalité qui a créé aujourd'hui ce qui est redit aujourd'hui. Là, aujourd'hui, si j'ai quelque chose, c'est la colère et c'est l'envie de changer le monde pour que ça soit mieux et meilleur demain.
Et aujourd'hui, c'est quoi votre rapport à la Syrie? Est-ce que vous avez pu y retourner, notamment bah, depuis la chute de Bachar al-Assad? Est-ce que même vous avez la volonté, voire l'espoir de pouvoir y retourner un jour?
C'est plus compliqué aujourd'hui. Quand je suis arrivé en France, pour moi, c'était demain, on va retourner. Demain, ça va être la fin. J'ai refusé complètement de parler français au début. Je voulais pas m'intégrer. Parce que pour moi, c'est demain, dans un mois, je vais pas rentrer en Syrie. J'étais ici physiquement, mais la tête, elle était toujours en Syrie. Mes réflexions, mes habitudes, ma vie, c'était la Syrie. Au fur et à mesure du temps, avec l'apprentissage de français, avec tout ce que j'ai pu acquérir pendant tout mon parcours migratoire, aujourd'hui, la France, Paris, c'est ma maison. Paris, c'est ma vie. Je commençais à construire des souvenirs. Je trouve mon amoureuse ici. J'ai une petite fille aujourd'hui. J'ai construit une vie ici. Donc, le fait de dire, est-ce que je peux rentrer en Syrie ou non, c'est complètement différent aujourd'hui. Si je vais rentrer en Syrie, c'est-à-dire plus de retour à Paris, plus de retour à un lieu aussi, j'ai passé 12-13 ans de ma vie ici. Donc ça aussi, ça pose une question énorme. Je suis arrivé à 25 ans, je suis aujourd'hui à 37-38 ans. Donc beaucoup de temps, 13 ans, c'est beaucoup de temps. Le retour en Syrie, c'est un peu compliqué parce que le pouvoir actuel en Syrie, c'est un pouvoir qui est radical, qui est islamiste, qui est issu et fruit de l'Al-Qaïda, qui n'accepte pas la mixité politique, qui n'accepte pas le fait que la construction de Syrie post-Assad doivent être un travail collectif, un travail qui doit être avec l'ensemble des groupes syriens, l'ensemble des ethniques et des minorités syriennes. Malheureusement, le charia aujourd'hui, il n'accepte pas ça. Donc, le fait de rentrer en Syrie, c'est un peu risqué pour moi aujourd'hui, mais j'espère y rentrer plus tard.
Et est-ce qu'il y a eu un moment particulier, une rencontre, une situation que vous avez vécue en France et qui vous a fait prendre conscience que votre histoire personnelle, elle vous obligeait à aider les autres, à vous engager auprès des autres, notamment des migrants?
Oui, c'était pendant le moment que je voulais reprendre mes études supérieures ici en France, avec l'arrivée des vagues des Syriens, avec mon histoire personnelle qui voulait juste devenir un avocat, défendre les prisonniers politiques en Syrie. Et chaque fois, j'ai parlé avec mon assistant social, chaque fois, j'ai trouvé des personnes ou des structures qui essayent d'aider les personnes exilées à trouver leur chemin. La reprise d'études à cette époque n'était pas un choix. C'était quasiment impossible. Et donc, avec le souffrance que moi j'ai vécu pour reprendre mes études, réussir, finir, être diplômé, m'a forcé en fait à m'engager aussi pour les autres. Et c'est là que c'est né le bout d'un projet qui était le premier projet de lancé vraiment par les exilés pour les exilés. C'est le projet de l'Union des étudiants exilés qui était devenu CIVAD et qui est devenu une grande association qui aide les personnes étrangères exilées qui ont envie de reprendre leurs études supérieures à intégrer un parcours académique. Donc c'est vraiment ce moment-là qui m'a forcé à engager. Et en plus aussi, c'est l'histoire familiale, c'est mon parcours en Syrie en tant que militant, tout ce que j'ai vécu ici comme des barrières administratives, linguistiques, académiques pour intégrer à l'université. Donc, comment je peux, moi, autant que Rudy, qui a galéré pour avoir accès aux études supérieures, à éviter, à empêcher que les autres qui arrivent, qui viennent d'arriver, à avancer plus facilement dans leur vie académique, sociale et économique ici en France?
Parce que vous, pour rappel, vous aviez un master en droit. Donc, quand vous êtes arrivé en France, il s'est passé quoi concrètement?
Donc, quand je suis arrivé en France et que je voulais reprendre mes études, il y avait plusieurs obstacles. D'abord, pas de reconnaissance des diplômes. C'est-à-dire, moi, autant que personne qui avait seulement deux matières à valider à son université de Damas en droit, et que j'ai pas pu valider parce que j'étais empêché à continuer mes études à Damas, et que je suis arrivé en France, il n'y avait pas des procédures de reconnaissance des diplômes ou de parcours académique. Et le niveau de français, en fait, aussi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui des cours de français académiques pour les personnes exilées qui arrivent en France. Donc, il y avait ça aussi. Comment, en fait, on peut apprendre le français d'une manière académique pour intégrer un cursus universitaire? Et puis aussi, tout ce qui est lié à bourse, au logement, à la stabilité. C'est des barrières systématiques contre les personnes exilées à avoir une vie stable ici en France pour réussir leur parcours d'intégration et de migration ici en France.
Et concrètement, qu'est-ce que vous faites avec l'Union des étudiants exilés pour leur venir en aide?
Donc, l'Union des étudiants exilés, c'était une association qui aide les personnes exilées qui arrivent en France, qui ont envie de reprendre leurs études supérieures, qui sont demandeurs d'asile, réfugiés, sans papier, regroupement familial, qui ont le niveau bac ou pas, et qui ont envie vraiment d'avancer dans leur vie académique ici. Donc nous, ce qu'on fait, on fait un diagnostic, un accompagnement global avec ces personnes-là, puis à les aider à construire les dossiers, à savoir quelles procédures. Tout ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est en fait, et surtout quand on ne parle pas la langue. Donc avec l'association que j'ai créée, c'était aider ces personnes-là dans leur langue maternelle aussi. Et on parle turc, kurde, arabe, perse, ukrainien, russe. C'est vraiment la langue des personnes étrangères et la langue maternelle. Et l'accompagnement était basé sur ça.
Tout à l'heure, vous parliez de violence. Il y a la violence de l'exil, mais il y a aussi une deuxième violence, c'est lorsqu'on arrive et cette violence administrative. Est-ce que vous vous y attendiez à que ce soit aussi dur?
Franchement, pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, la violence administrative, elle est un mur que les personnes exilées font faire face. Et il faut trouver une manière à dépasser. Donc, la violence administrative, pour déjà demander l'asile, c'est appeler le guichet unique, donc à prendre un rendez-vous. Ça, il faut avoir un SIM card, il faut avoir un portable, il faut avoir un numéro de téléphone, et la SIM card doit avoir de crédit. Donc, c'est-à-dire, on paye pour demander un rendez-vous pour avoir la possibilité de demander l'asile. C'est quelque chose de dingue, en fait. Le droit d'asile, c'est un droit reconnu par la Constitution française, par des conventions internationales, mais quand même, ici en France, on paye pour avoir ce droit-là. Tout ce temps perdu, tout ce qui est lié à un changement d'adresse, à un changement de la préfecture, à un changement de logement qu'on subit parce qu'il y a une directive qui vient de l'OFII, qu'on a commencé à s'installer dans un lieu et que Luffy a soudainement décidé de changer le logement et d'aller dans une autre ville ou dans un village où il n'y a personne. Tout ça, ça crée vraiment une sorte de dépression, une sorte de...
Un stress constant.
De stress, d'envie juste que ça s'arrête. Avoir une demande de renouvellement du titre de séjour. Moi, j'ai attendu un an et demi pour avoir mon nouveau titre de séjour. Est-ce que c'est normal? Ben non. Pourquoi il faut attendre ça? Pourquoi il faut vivre dans ce stress et être de nouveau en France, mais prisonnier de France, en fait, autant que quelqu'un qui essaye de recréer des liens, de revivre sa liberté et tout ça, bah, en fait, avec toutes les choses administratives qu'on vit, c'est impossible.
Parce que dans l'attente d'un titre de séjour, est-ce qu'il y a une protection où vous pouvez vous faire arrêter un peu du jour au lendemain?
Dans l'attente de renouvellement de titre de séjour, on a une simple attestation de prolongation de la décision. Où on a une simple RCPC qui dit bah, nous avons fait la demande et on attend la délivrance de titre de séjour. Et avec ce bout de papier, il y a la police et seulement la police qui le reconnaît. Donc, en dehors de la police qui arrive à identifier qui on est et tout ça, en dehors de ça, c'est pas du tout reconnu. Et je peux pas avoir les droits sociaux en tant que quelqu'un qui a ce bout du papier pour demander l'APL. Demander le RSA, demander le chômage, avoir un crédit, avoir un compte bancaire, tout ça, c'est impossible.
Donc vous avez attendu un an ou un an et demi?
Un an et demi.
Comment vous l'avez vécu cette période?
En fait, je me suis interrogé beaucoup. On devient une machine. On crée des manières à résister ça, à travailler, à étudier, à résister, à faire tout. En fait, on devient des forces de proposition qui essayent de trouver toujours des solutions. Et donc, pendant un an et demi, j'étais bloqué par rapport au voyage. Ce qui est bien, c'est que dès que la décision y sort, l'employeur a le droit de nous engager. On peut travailler, mais beaucoup des entreprises et beaucoup des employeurs, par exemple, ne connaissent pas. Donc, avec les lois, avec la pression d'État, ils essayent complètement éviter de recruter des personnes avec une simple attestation de délivrance de titre de séjour. Pas de travail, pas de possibilité de voyager en dehors de la France. Donc, on peut prendre le train, mais à Bruxelles ou aux premières villes de la frontière allemande, la police allemande a le droit de nous arrêter et nous renvoyer en France. C'est des choses comme ça qui font vraiment difficile la vie. Moi, j'ai travaillé, donc il n'y avait pas besoin d'avoir ni le RSA, ni APL ou d'autres aides sociales. Mais imaginons si une personne avait le RSA ou le chômage et l'APL pour payer, pour vivre au minimum, et que le renouvellement de son titre de séjour ne fait pas autant. Bah là, en fait, cette personne-là, il va être privé de tout ça. Et à la fin, comment il va vivre? Soit de travailler au black, soit de trouver des solutions, d'aller vers la communauté et aller plus loin pour trouver des solutions.
Est-ce que le contexte politique, la montée aussi de l'extrême droite en France, mais aussi dans toute l'Europe, est-ce que vous la craignez à la montée aussi de discours haineux, stigmatisants?
C'est sûr que le pire n'est pas arrivé encore. Mais tout ce qu'on a vécu avec Retailleau, toute cette violence-là, pendant la campagne présidentielle avec Zemmour, avec Le Pen, qu'ils ont créé un discours aujourd'hui qui est devenu la norme. Les réfugiés, les exilés, les étrangers sont des délinquants. Donc ça nous a heurté. On arrive en France, on est déjà jugé, on est déjà stéréotypé par quelqu'un qui va voler, qui va tuer, qui va violer. Or que c'est pas du tout ça notre réalité. On est des humains, on est des ingénieurs, on est des médecins, on est des avocats. On a vraiment des choses et beaucoup de choses à donner à ce pays-là. Partager et à participer dans la construction culturelle, économique et sociale de ce pays-là. Mais le fait d'être déjà la première chose, être vu comme quelqu'un qui indulte, quelqu'un qu'on le traite comme un délinquant, c'est déjà très difficile. Et alors, comment je peux, autant que personne qui arrive, déjà traité comme ça, à m'intégrer dans cette société-là aussi? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. chaque fois, en fait, on pense que ce niveau-là qu'on est arrivé, c'est le top et ça va pas arriver plus que ça. Sauf que, à mon avis, le pire n'est pas encore arrivé. On voit avec Donald Trump aux États-Unis, on voit avec l'Italie, on a vu avec l'Hongrie, on voit l'extrême droite à quel point il peut faire les choses. On voit à quel point il peut faire vraiment mal aux personnes exilées. Donc, j'espère que l'extrême droite n'arrivera pas au pouvoir et j'espère que aujourd'hui, on arrive à avancer aussi en dialoguant avec les personnes exilées, avec les représentants de personnes exilées via le Parlement des exilés et des projets qui sont en ouvrant aujourd'hui, qui travaillent beaucoup pour vraiment créer un dialogue entre les personnes exilées et les institutions via l'ouverture d'un accès aux droits des personnes exilées, parce qu'en fait, à mon avis, le problème aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, en France, on n'investit pas aux personnes exilées qui arrivent en France. Une politique qui empêche à avancer ces personnes-là dans leur vie. Or, si on investit aujourd'hui dans cette personne-là qui est déjà prêt en fait à faire des choses, à réaliser des rêves, parce que quelqu'un qui a traversé la mer, quelqu'un qui a essayé de faire tout pour arriver ici, l'idée c'est que cette personne-là, il va faire tout aussi pour réussir, parce qu'il a fait l'impossible, il a fait vraiment l'impossible pour y arriver. Et donc, si on n'investit pas dans cette personne-là, si on n'investit pas que cette personne-là, il inclut directement dans la société par les cours de français, par l'insertion professionnelle, mais vraiment adéquate avec ses compétences, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est ingénieur à se trouver en vigie, ou pas quelqu'un qui est médecin à se trouver un livreur de Uber. On peut faciliter ces intégrations et régler le problème des médecins aujourd'hui en France. Quelqu'un qui est prof peut devenir un prof ici, mais il faut des investissements, il faut une politique publique d'investissement. Je crois qu'aussi les personnes étrangères, ils sont des entrepreneurs. Parce qu'il a fait ce parcours migratoire aussi. C'est-à-dire avec la résilience, avec tout ce qu'on est passé par les passeurs, traverser le désert, à prendre un bateau, on ne sait pas si on va être vivant ou mort, à convaincre l'administration qu'on mérite l'asile, à montrer qu'on peut vivre dans les tentes, après dans une petite chambre, après dans un gymnase, après avoir un petit studio et commencer tout de zéro et chaque fois de zéro. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui sait prendre des risques, qui sait comment prendre des décisions et qui sait comment réussir.
Pour revenir sur votre parcours, ce que vous avez pu subir en Syrie, que ce soit les arrestations, les tortures, elles vous ont aussi construit aujourd'hui, ça fait aussi la personne que vous êtes aujourd'hui.
Bien sûr, je suis tout à fait d'accord parce que c'est ce trajectoire qui nous force en fait à devenir à ce qu'on est aujourd'hui. C'est cette expérience ou cette violence aussi administrative, ce déclassement social, ce déclassement économique qui nous force à faire tout pour sortir de ça. Quand on quitte le pays d'origine, on cherche une meilleure vie. Pas seulement pour nous, mais pour nos enfants aussi. Et le fait que nous, on soit privés de ça, ça va créer aussi une sorte de culpabilité envers de nos enfants aussi. C'est là que le problème il vient. C'est qu'en fait, parce qu'on n'investit pas, parce qu'on n'aide pas, parce qu'on n'accompagne pas, c'est les résultats ce qu'on voit dans les violences des personnes immigrées, réfugiées, exilées, qui arrivent.
Si vous pouviez vous adresser au jeune homme que vous étiez, notamment en Syrie, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui?
Ah je vais lui dire, regarde, tu vas traverser beaucoup de choses. Tu vas avoir d'espoir, tu vas avoir de l'amour, mais tu vas être beaucoup, beaucoup déçu. Et là, je vais lui demander vraiment de garder les principes et des valeurs qu'il a grandi avec, parce que c'est ces principes et valeurs qui vont le aider à construire ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment ces principes et valeurs de partage, de aide, de révolte et qui m'ont donné la force à continuer à réussir, à faire des choses et avancer dans ma vie.
Ça fait un peu plus de 10 ans que vous êtes en France maintenant. Tout à l'heure, vous avez dit que la France était devenue votre maison, que Paris était votre maison. Vous le réitérez?
Oui, parce qu'en fait, comme j'ai dit, Paris pour moi, c'était juste une phase transitoire. Je reste un petit peu, voilà. Mais Paris aujourd'hui, c'est toute ma vie aussi. C'est toute ma vie parce qu'il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de douleurs, il y a tellement de victoires, il y a tellement de déceptions, mais il y a tellement d'espoir aussi qui crée cette ville, mais d'une manière que, en fait, c'est magique. Moi, j'ai détesté Paris, mais pendant très longtemps. Et ce qui est bizarre, c'est que chaque fois que je vais en Allemagne voir des amis, je leur dis, mais j'ai hâte de rentrer à Paris. J'ai hâte de me trouver à Paris. Paris, c'est une ville qui sait bien te faire chier vraiment, à t'énerver, à te détruire, mais en même temps aussi qui sait bien à te donner dans des moments que t'as besoin vraiment. Écoute, t'es détruit, t'es par terre. Et soudain, il y a une lumière qui passe dans cette ville-là, il y a une idée qui vient, il y a une sorte de magie qui arrive, qui change tout. Et Paris, c'est ça. Et ma maison, c'est Paris. Je connais pas l'ensemble de la France. Paris, c'est aussi les histoires d'amour. C'est l'histoire de chercher une douche publique. C'est les histoires de faire la queue aussi devant la préfecture à 4 heures du matin. Mais avec tous ces moments durs, Paris reste la maison et devient la maison. En Syrie, j'ai pas accepté d'être victime et je veux pas du tout accepter d'être victime ici. Et je veux pas être victime de ce système ou du régime d'Assad. L'idée, c'est d'être un acteur. L'idée, c'est de créer en fait un avenir. Je suis quelqu'un qui essaye aussi de réaliser ses rêves, de les rendre une réalité, et ce qui m'a fait de Rosie d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Lundi, d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci beaucoup.
C'était Venu d'Orient avec Lundi Haussmann, fondateur de l'Union des étudiants exilés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.